Bonjour à tous, vous êtes au bon endroit au bon moment. Vous écoutez Disparu, le podcast des disparitions mystérieuses. Je suis Lionel Camille, on est pratiquement fin juillet, pendant les grandes vacances, donc j'imagine que certains d'entre vous sont dans des endroits ensoleillés, au bord de la plage peut-être, ou à la montagne, voilà, dans des coins assez sympas, en train de se relaxer, donc j'en profite pour vous souhaiter tout de suite de bonnes vacances, à tous ceux qui ont la chance d'en prendre, aux autres qui bossent pendant la période estivale, bah, bon courage à vous. Voilà, comme ça, ça c'est fait. Donc aujourd'hui, je vais vous livrer un épisode hors série. On va pas parler de disparition aujourd'hui, on va parler du Dogman. Donc Dogman dont j'ai déjà parlé dans ce podcast à travers la bête de Bray Road. Donc aujourd'hui, des témoignages de personnes qui auraient rencontré le Dogman, donc des témoignages très crédibles. Donc vous écouterez ces histoires un peu plus tard. Je vais d'abord vous passer un message assez personnel, on va dire. Je vais être honnête, sincère avec vous, comme je suis depuis le début de ce podcast. Il y a maintenant, ça va faire presque 3 ans maintenant que j'ai démarré ces émissions. Donc j'ai fait, j'en profite d'ailleurs pour parler d'une émission que j'ai fait, une interview que j'ai fait récemment chez Geek et Légende, donc un podcast sur les mystères et légendes modernes. Donc une interview qui a été réalisée par Fred, que je salue au passage, que je remercie. Donc dans cette interview, je parle un peu de mon parcours, et je donne aussi certaines informations un petit peu sur les coulisses de mon travail. Voilà. Donc je m'exprime à cœur ouvert sur pas mal de sujets, notamment sur le podcast, ce podcast. Et donc je vais relayer rapidement l'info que j'ai déjà donnée dans l'émission. Donc en résumé, je vais faire moins d'épisodes du podcast et je vais vous expliquer pourquoi maintenant. En fait, il y a plusieurs raisons. Donc première raison, le manque de temps. C'est vrai que j'ai pas mal d'activités, donc l'écriture des livres qui est mon activité première, faut pas l'oublier. Donc les émissions sur Nura TV, je vais continuer à en faire assez régulièrement si je peux, parce qu'elles demandent énormément de préparation. Et aussi une nouvelle activité là que je vais vous parler juste après là, dans quelques instants. Puis bon, faut savoir, c'est vrai que j'ai un autre travail à côté quoi, donc j'ai une vraie vie. Et les journées font que 24 heures, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient un petit peu compliqué de pouvoir tout faire. Donc voilà, donc première raison, le manque de temps. Deuxième raison, je vais être très très franc, très sincère, le manque de retour. Le manque de retour quoi. C'est vrai que j'ai fait 35 épisodes en 3 ans, et quand je regarde sur iTunes, j'ai que 19 notes, voilà, que 10 commentaires, mais il n'y a même pas 19 commentaires, il n'y a que 10 commentaires, donc c'est pas très très gratifiant, c'est pas très très motivant, quoi, je veux dire, en plus, un des derniers commentaires très désagréable. quand je vois ça, je rêve, quoi. Je veux dire, on est des créateurs, on est des auteurs qui essayons d'apporter du contenu gratuit, on passe du temps à faire ça, et puis voilà, il y a des gens qui viennent, et puis qui se croient tout permis, quoi, qui... Bon, bref, je préfère pas continuer, parce que je... pas répondre à ces personnes, parce que je risquerais d'être blessant. Et j'aime pas ça. Je vais en rester là, je vais juste rappeler l'importance de mettre des commentaires, des notes, c'est important. C'est pas par narcissisme, c'est pas j'aime pas qu'on me tire les pompes, non, c'est pas ça. Il faut bien comprendre que c'est comme ça que le système fonctionne. iTunes, ça fonctionne avec les commentaires, avec les likes, avec les notes. Ça vous permet de vous faire remonter dans les classements, dans les calculs des moteurs de recherche, en fait. Vous remontez plus vite, vous êtes plus visible. C'est une question de visibilité, c'est ça qui est important. Et la visibilité, à l'heure actuelle, c'est vraiment ce qui est le plus important, je pense, pour tous les auteurs, quel que soit le domaine. Les musiciens, les romanciers, partout, quoi. Je veux dire, je l'ai dit dans l'émission sur Geek et Légende, vous pouvez écrire le meilleur roman du monde. C'est pas mon cas, hein, je vous rassure. Mais si personne ne sait qu'il existe, ça sert à rien, quoi. Je veux dire, voilà. Donc voilà où on en est aujourd'hui, malheureusement. Donc ça, c'est ça. La deuxième raison, c'est le manque de retour. Voilà. C'est vrai que J'éprouve de moins en moins de plaisir à le faire, je dois le dire aussi. Parce que moi, je suis un être humain, j'aime le contact, voyez. C'est pour ça que je prends beaucoup de plaisir maintenant à faire les émissions sur Nura TV. C'est vrai qu'il y a une interaction avec les gens, il y a des retours, il y a des échanges. Et puis là, voilà, nouveau projet, ça va être encore plus. Je vais franchir encore un degré vis-à-vis de ça, donc je trouve que c'est très 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 enrichissant. Donc il y aura moins d'épisodes. C'est pas, j'ai pas envie d'arrêter ce podcast parce que je sais qu'il y en a certains qui l'apprécient, quoi. Mais il y a peut-être un moment aussi, voilà, j'aurai plus trop le temps de le faire. Donc je vais essayer de continuer de le faire, mais il y aura moins d'épisodes. Parce que voilà, ça, c'est trop compliqué de. On peut pas tout faire au bout d'un moment. Voilà, c'est ça. Quand on n'a pas le temps, tout simplement, ça devient très compliqué. Il y a un char d'assaut qui vient de passer à côté de chez moi. Là, c'est les Russes qui arrivent. Donc, je vais maintenant venir sur mes projets aussi des prochains mois. Donc, je vais continuer les émissions sur Nura TV. Je viens d'en faire une d'ailleurs récemment sur la disparition mystérieuse de Brian Schaefer. Donc, vous avez peut-être entendu parler. Donc, là encore, vous avez une émission de 2 heures sur cette affaire qui est absolument nébuleuse également. Donc je vous invite à aller la regarder sur YouTube si vous ne l'avez pas encore vue. Et vraiment la grosse nouveauté de la rentrée, là je suis très 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 excité à l'idée de le faire, c'est que je vais faire des conférences en public, notamment dans le cadre d'un salon qui est le salon Para-Expérience. Donc c'est le plus gros salon du paranormal qui va se tenir à Dijon les 8 et 9 septembre 2018, donc un des premiers week-ends de septembre. Donc ça va être énorme, énorme. Ils attendent plus de 4000 visiteurs en 2 jours. Là, il y a vraiment tout le gratin, on va dire, dans le domaine du paranormal, de l'ufologie, du mystère, qui vont être à Dijon, donc le week-end du 8 et 9. Donc moi, je vais faire 2 conférences, a priori, donc sur les disparitions mystérieuses, en lien aussi avec l'ufologie, qui est donc l'étude des phénomènes aériens non identifiés, des ovnis. Donc ça va être une conférence en plus qui est totalement inédite, que je ferai uniquement en live, on va dire. J'ai vraiment hâte d'y être, surtout que cette conférence, je vais la faire ensuite à nouveau à Nantes, dans le cadre des repas ufologiques de Nantes. Voilà, donc ça va être aussi, très sympa. Donc si jamais il y a des auditeurs de l'ouest de la France, on pourra se rencontrer là-bas, ça sera vraiment cool. Voilà, donc et puis cette conférence après s'appelait, je la ferai tourner probablement peut-être aussi à Tours, j'ai quelques contacts aussi avec les repas ufologiques de Tours. Voilà, donc voilà les projets de la rentrée. Je travaille aussi sur mon nouveau livre, un nouveau tome de Disparus dans la nature. Voilà, je reviens à mes amours, j'ai fait un petit passage en zone urbaine, je retourne dans la nature pour vous présenter encore 20 histoires vraies et mystérieuses de disparition dans les vastes zones sauvages de notre planète. Donc je suis dessus là aussi, donc c'est vrai que les vacances sont assez chargées, surtout que je bosse aussi à côté, je le rappelle encore une fois, j'ai aussi un autre boulot, mais je ne vous oublie pas, vous voyez. Je tiens aussi aujourd'hui à remercier donc toutes les personnes avec qui j'ai eu des contacts ces derniers mois, qui me suivent, qui viennent me rejoindre sur Facebook. J'ai beaucoup de contacts avec des nouveaux spectateurs, avec des nouveaux lecteurs, des personnes de tous les horizons d'ailleurs. Et vraiment, vraiment, merci à vous, merci pour votre soutien. Ça me fait très plaisir. Et puis j'ai besoin de vous aussi surtout. C'est bien de se sentir soutenu. Et voilà, je vous promets que je vous ramènerai, je essaierai de continuer à vous proposer des histoires intéressantes, que ce soit sur Nura TV, que ce soit dans les conférences, que ce soit dans mes livres, que ce soit dans ce podcast. Voilà, j'essaierai de faire mon maximum pour vous contenter.
Priez pour ne jamais rencontrer le Dogman, une créature aussi mystérieuse que terrifiante aperçue aux États-Unis. C'est ce qui est arrivé à Steven Kruger en 2006 et à Jeff Cornelius en 2015. Voici leurs histoires. Nous sommes en novembre 2006, à Holly Hill, dans l'état du Wisconsin, aux États-Unis. Steven Kruger est employé par plusieurs comtés pour ramasser les carcasses d'animaux écrasés sur les routes. Son travail consiste à rouler la nuit sur les routes des comtés, sur les highways, et ramasser les roadkill afin de nettoyer les routes et aussi éviter les accidents qu'ils pourraient causer. Cette nuit du 9 novembre 2006 à 1h30 du matin, Steven est sur la highway 167. Il roule près de l'entrée de Holly Hill, plus précisément sur la route de Church Road. Nous sommes dans une zone extrêmement rurale. Il n'y a pas d'éclairage. Steven est en train de conduire en écoutant de la musique rock assez fort. Ses fenêtres sont fermées. Il est à bord de sa camionnette et doit ramasser des carcasses d'animaux dans le comté. Il a une liste de ramassage assez précise. Tandis qu'il est en train de rouler sur la highway 167, il repère un cerf d'environ 40 kg qui n'est pas sur sa liste. Le cerf a apparemment été écrasé, ou en tout cas il est mort récemment. Donc Steven s'arrête. Il stoppe sa camionnette et laisse le moteur tourner. Par mesure de sécurité, il allume les gyrophares du véhicule afin de se signaler auprès des autres automobilistes qui pourraient passer. Donc Steven descend de la camionnette et va voir la carcasse d'animal. Précisons que Steven est un costaud. Il mesure 1m80 et pèse plus de 100 kg. Steven est plutôt costaud, mais il a quand même du mal à mettre la carcasse à l'arrière de la camionnette. Il la soulève et la pose un peu comme il peut sur la plateforme du camion. Voilà, il reprend son souffle et laisse le haillon ouvert et remonte dans sa cabine pour souffler un petit peu. Là, il referme la portière. Notez qu'il y a toujours de la musique rock assez fort dans la cabine. Ses fenêtres sont toujours fermées. Et il prend note de l'endroit où il a ramassé le cerf. Il s'en sert de statistiques. Comme ça, ça sert pour son employeur. Qu'il est en train de noter sur son calepin. Soudain, il sent le camion bouger. Là, il pense que c'est le vent. Une bourrasque de vent qui fait un peu bouger la cabine. Mais le véhicule remue un peu plus violemment. Quelques instants plus tard, là Steven se dit, c'est pas possible, il se passe quelque chose. Donc Steven lève les yeux, son regard croise le rétroviseur. Et là, il voit quelque chose derrière. Quelque chose qui le terrifie. Cette chose est courbée au-dessus du haillon. Elle est montée plus ou moins sur la camionnette, et elle est en train d'attraper la carcasse du cerf. Steven s'est figé de peur quelques secondes, mais bien vite, il reprend ses esprits et il écrase l'accélérateur. Heureusement, pour lui, il avait laissé le moteur tourner. Donc, Steven démarre en trombe. Il veut en partir le plus vite possible. Rappelons que dans les situations de stress intense, c'est fight or flight, c'est-à-dire le combat ou la fuite. Ici, c'est clairement la fuite et on comprend tout à fait Steven. Parce que la suite, il va donner une description assez précise de la créature qu'il a observée. Donc il a bien eu le temps de la voir pendant environ 5 secondes. Donc selon Kruger, la chose avait des oreilles pointues et triangulaires, comme des grandes oreilles de loup. C'est le détail qui lui a fait dire que ça n'était pas un ours. Donc la chose, l'animal, avait un long museau, plus long qu'un ours noir. En fait, la créature ressemblait à un ours, mais avec une grosse tête de loup, un peu disproportionnée par rapport au corps. Et la créature était debout sur ses pattes de derrière,
elle n'était pas vraiment montée sur la plateforme de la camionnette. Elle était courbée à l'arrière, mais donc cette créature était apparemment très grande, entre 1m80 et 2m10, et elle a attrapé la carcasse de serre avec une seule patte, ou bras, on ne sait pas trop, ce qui nous donne une idée de la force de la créature. Donc, le corps de cette chose était couvert de fourrure noire. Les poils étaient assez longs, environ 5 cm. En tout cas, Kruger est sûr d'une chose. J'ai su que ça n'était pas Bigfoot, a-t-il déclaré. Donc Kruger est parti, il a redémarré. Il est assez loin de l'endroit où il a aperçu, où il a fait sa rencontre, hein, effrayante. Et il s'arrête. Il sort 2 secondes, parce qu'il est quand même conscient que la créature pourrait être encore dans les parages. Et il va vérifier à l'arrière de la camionnette, très rapidement. Le cerf a disparu, ainsi qu'une rampe en aluminium. La créature apparemment a tout arraché. Ça vous donne encore une idée de sa force. Voilà, en tout cas, le témoignage de Steven Kruger est resté célèbre, complètement crédible. Il a témoigné dans les médias, il est passé sur les chaînes de télé locales, il est passé dans des émissions sur le paranormal aussi pour témoigner. En tout cas, il n'a jamais varié de son témoignage. Il est absolument certain de ce qu'il a vu. Pour lui, il ne pouvait pas s'agir d'un canular, pour la simple et bonne raison que personne ne savait qu'il passerait sur cette route ce soir-là. Le cerf qu'il a ramassé ne figurait pas sur sa liste de ramassage. Donc il pouvait en aucun cas s'agir d'un guet-apens ou d'une blague. Parce qu'on n'imagine pas quelqu'un en costume comme ça qui attend que quelqu'un passe. Ça tient pas la route. Hein. Voilà. Donc la créature qu'a vu Steven Kruger est un type de dogman, mais qui est assez rare, qui a été dénommé sous l'appellation Bear Wolf, c'est-à-dire loup-ours. En gros, voilà, une créature qui a un corps d'ours et une tête de loup. On ne sait pas ce que c'est. Est-ce que ça serait un ours mutant? Est-ce que ça serait une créature d'origine préhistorique, qui aurait survécu? À moins qu'il s'agisse d'une créature surnaturelle. Voilà. On n'en sait rien. En tout cas, ce témoignage est resté très célèbre. Mais ça n'est pas le seul. Je vais vous raconter maintenant un autre témoignage qui est aussi très connu, qui s'est déroulé assez récemment dans un autre état, donc l'état du Michigan, qui est l'état voisin du Wisconsin. Je vais vous raconter l'histoire de Jeff Cornelius. Deuxième témoignage. Jeff Cornelius. Nous sommes le 1er juin 2015, près de Holly, une ville du Michigan. Jeff Cornelius travaille pour une société de recouvrement de dettes. Il est chargé de venir récupérer la voiture d'un mauvais payeur, voilà, qui vit sur une route qui s'appelle Fish Lake Road. Donc, c'est tout près de Holly, dans le Michigan. C'est une route rurale en terre, assez isolée et déserte. Une grande ligne droite, environ 8 ou 9 km. Il n'y a que quelques propriétés, donc c'est très, très sauvage. Il y a des forêts, il y a des champs. Et donc, il se rend là la nuit parce qu'il sait que le propriétaire n'est pas là. Il décide que c'est le meilleur moment pour venir tenter de récupérer sa voiture. Voilà. Donc il roule sur cette route un peu lugubre et il arrive à peu près à l'endroit où habite le mauvais payeur. Voilà, donc il repère la maison, il s'approche de la maison, il se gare assez près d'un hangar qui est à côté de la maison parce qu'il se doute que la voiture est probablement rangée dans ce hangar. Donc Jeff descend de sa camionnette, parce qu'il a une camionnette, voilà, c'est une espèce de camion remorque. Il descend de sa camionnette, il laisse le moteur tourner, il prend une lampe torche, il se dépêche, il marche vite vers le hangar.
Alors, bien sûr, il n'y a aucun éclairage, on est dans le noir complet, donc il laisse ses feux allumés, hein, et pour y voir quelque chose, il s'approche du hangar. Le hangar a des fenêtres sur les côtés, et il se met sur la pointe des pieds avec le faisceau de sa lampe pour regarder à l'intérieur du hangar. Donc Jeff est en train de essayer de voir quelque chose. Hein. Tout d'un coup, il entend une branche craquer. À environ 30 mètres de lui, sur la droite. Donc là, il tourne la tête et... Donc là, il voit ce qu'il décrit comme une grosse créature couverte de poils qui se tient debout. Près d'un bois, à une trentaine de mètres. Alors, petit détail particulièrement terrifiant, la créature grogne. Elle a l'air énervée que Jeff l'ait entendue. Et Jeff va dire qu'il est persuadé, il a le sentiment que s'il n'avait pas entendu ce bruit, il serait mort à l'heure actuelle. Donc là, ça va très vite. Après, la créature se met à courir vers Jeff. Donc Jeff se précipite comme un malade vers son camion, il enclenche la marche arrière. Alors pendant qu'il fait sa manœuvre pour repartir, en fait, la créature passe dans le faisceau de ses phares. Et avant qu'elle aille se réfugier dans les bois, Jeff a le temps de l'observer quelques secondes. Et il la voit quand même assez bien. Donc il va la décrire de la manière suivante. Elle mesure dans les 1m70. Courbée en avant avec les pattes positionnées vers l'arrière. Donc ça, ce sont des pattes qui sont clairement canines, quoi. Un peu en forme de S. Hein. Donc si vous avez un chien, regardez les pattes de derrière. Vous verrez un petit peu la forme. Elles sont en forme de S. Voilà. Donc la créature, selon Jeff, avait une grosse tête. Donc avec deux oreilles pointues. Et il va dire que c'est une sorte de mélange entre une hyène et un babouin. En tout cas, il n'a jamais rien vu de pareil. Il a vu d'assez près pour assurer qu'il ne s'agissait pas d'un homme dans un costume. C'était pas du tout un Bigfoot non plus, ou un chien. Il a l'habitude, Jeff, de voir des animaux dans le cadre de son boulot. Donc voilà. La seule façon dont je pourrais le décrire est un loup-garou, a-t-il déclaré. Donc revenu à son entreprise, donc Jeff Cornelius a raconté sa mésaventure à ses collègues qui ont rigolé bien sûr. Mais bon, il faut quand même savoir que aucun d'entre eux n'a voulu aller retourner chercher la voiture par la suite. Donc ils sont quand même prudents les gens. Hein, ils rigolent, mais bon, ils sont pas tout à fait courageux. En tout cas, Jeff, c'est encore un témoignage très crédible, une fois de plus. Et il a donné un détail important, le son du grognement de la créature, du Dogman. Donc contrairement à une idée reçue, cette créature ne hurle pas comme un loup-garou, comme dans les films. Elle a un grognement vraiment particulier qui ressemblerait à un bruit de machine à cappuccino. C'est-à-dire que c'est un grognement qui va dans les graves et monte dans les aigus, qui roule un peu comme ça, qui est très inhabituel. Et il se trouve que d'autres témoins... qui ne connaissent pas Jeff, ont rapporté exactement le même détail. Ils ont dit la même chose. Donc c'est vraiment... ce témoignage est encore très troublant. Jeff a dit que c'était un homme loup hargneux. Ça, c'est vrai que beaucoup de témoins du Dogman nous expliquent que le Dogman donc, a l'air énervé, en colère. En tout cas, il a l'air très agressif à chaque fois. Et... ce qui est quand même étonnant, c'est qu'il y a quand même un rapport avec la religion. Donc, c'est un détail, mais si vous vous rappelez le premier témoignage de Steven Kruger, lui a rencontré la créature à un endroit qui s'appelait Holy Hill et Church Road. Holy Hill, avec H-O-2-L-L-Y, ça veut dire « ou », mais en phonétique, ça veut dire aussi « sacré » ou « saint ». Là où c'est bizarre, c'est que Jeff a rencontré la créature près de la ville de Holly, lui aussi. Donc là, c'est une coïncidence assez troublante. Et il faut noter que le Dogman est souvent aperçu près de cimetières, de sites funéraires indiens, près de lieux religieux. Voilà. Donc bon, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est une coïncidence? On n'en sait rien, mais bon, c'est quand même étonnant. En tout cas, tous les témoins du Dogman ont été terrifiés par leur rencontre. Beaucoup se sont sentis en danger. Beaucoup souffrent de stress post-traumatique. Aujourd'hui, ils font des cauchemars. Et même les automobilistes qui les ont vus de loin ont été marqués très fortement par leur rencontre. Et ils se rappellent même 20 ans après.
Razão!